Bonjour.
Bonjour.
Je suis Bernard de Gourdon, et c'est pas sans importance, nous allons savoir pourquoi. Des amis de la butte de Gourdon, organisateur du festival Léo Ferré, c'est aussi son importance. Et je suis heureux de te retrouver, Colette, érudite en ferréologie, incollable en ferréologie. Donc, nous sommes heureux de nous retrouver, je pense, enfin que mon plaisir est partagé, pour ce deuxième rendez-vous consacré au grand artiste, grand auteur, grand musicien, grand interprète, Léo Ferré. J'insiste sur le fait que je suis gourdonnais, car je t'ai demandé de consacrer cette deuxième émission à la période où Léo a vécu dans notre beau département, à côté de Gourdon, dans la commune de Saint-Clair, sur une colline dont le nom était Pêche-Régal et que, par licence poétique, il avait transformé en Perdrigal. Il était arrivé en 1963. Il avait précédemment vécu longtemps dans une presqu'île dans le baie de Cancale, qui est une île qui s'appelait, enfin, presqu'île. À marée basse, c'était une presqu'île, et à marée haute, c'était une île. Et il a un jour découvert le Lot, il avait des amis à Saint-Céré. Il est comme nous, comme beaucoup, tombé amoureux du département. Il a dit à ses copains, trouvez-moi une maison. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à Gourdon.
Alors, effectivement, comme l'a dit Bernard, dans les grandes lignes, c'est exact. Néanmoins, je vais apporter quelques petites précisions. Alors, il a demandé effectivement à ses amis de lui trouver une maison isolée, de façon à pouvoir y amener les chimpanzés, qui posaient déjà pas mal de problèmes, même dans l'île de Guéclin, et aussi à Nonancourt, dans une maison qu'il avait en Normandie. Donc, il voulait vraiment un endroit isolé. Et c'est aussi pour cela qu'il est venu ici. Par ailleurs, au niveau du nom Perdrigal, qui est en occitan veut dire perdri, mais j'ai un ami linguiste distingué de l'Aveyron qui dit que Perdrigal voudrait dire en argot le sexe de la femme. Et il n'est pas exclu que Léo l'ait su, et jouer un peu sur le double sens de ce mot. Parce que c'est quelque chose que Léo faisait très volontiers, de jouer sur les mots. Certains ont même baptisé, enfin on dit de Léo qu'il pratiquait des léologismes. Et c'est vrai qu'il aimait inventer les mots. C'est vrai qu'il donnait également des surnoms aux personnes qui l'entouraient, qu'il donnait des noms de personnes aux animaux qui l'entouraient. Et en fait, tout ça, c'était des clins d'œil, c'était son humour, car il avait beaucoup d'humour. Et dans ses textes, on pourra en parler dans une émission, l'ironie aussi, bien sûr, la distanciation. Et dans la vie, tous ceux qui l'ont connu savaient qu'il riait beaucoup. Et c'est parfois surprenant pour le public d'apprendre ça, mais c'est tout à fait exact. Alors, dans la précédente émission, j'ai parlé des deux axes de sa poésie, à savoir l'amour et la mort. Mais ça, c'est vrai depuis le XIIe siècle, chez les poètes français. Et puis la révolte pour ce qui est des poètes maudits, dont il faisait partie et il en avait mis en musique un certain nombre. Mais l'autre pilier de la poésie, c'est la nature. Et pour Léo, la nature, elle est très importante. Et lorsqu'il va se trouver dans le Lot, il va écrire pas mal de choses sur la nature, car la nature du Lot était quand même très prégnante. Alors, parler de cette période des 5 années vécues dans le Lot est un petit peu difficile, parce que c'est à la fois une période très, très productive, très créative sur le plan artistique. Il a fait beaucoup d'albums, il a mis en musique Baudelaire, Verlaine, Rimbaud. Il a fait les 3 versions des temps difficiles, donc dans un registre chansonnier, quelque chose de tout à fait différent. J'en profite pour préciser que l'œuvre de Léo Ferré, elle est extrêmement variée, mais qu'en fait, Léo, il a toujours mené toutes ses facettes simultanément. Donc en même temps, par exemple, qu'il mettait en musique la chanson du mal-aimé d'Apollinaire, il faisait des chansons dites populaires autour de Paris, comme Paname, par exemple. Ça, c'est quelque chose de tout à fait remarquable d'imaginer ça. Donc la nature, oui, alors je disais, c'est une période donc très très forte au niveau donc créative, très productrice, mais par contre au niveau affectif, c'est une période qui va quand même être pour lui difficile, douloureuse, et qui va introduire des profonds changements dans sa vie. Donc on évoquera un petit peu cet aspect-là également. Alors la nature, donc elle est présente, Et je cite une phrase de Charles Étienne dans la préface des poètes d'aujourd'hui, où Léo avait été publié. Charles Étienne écrit « Les grands revendicateurs ont toujours rêvé de la nature. On ne revendique et l'on accuse qu'au nom d'un certain ordre naturel blessé. » Et en effet, Léo, il avait un rapport très dionysiaque à la nature, voire même animiste. Il a écrit « Quand on coupe un arbre, j'ai mal à ma jambe. » Vers la fin de sa vie, il a également écrit un texte où il dit « Maintenant, vous savez qui je suis le vent. » Le vent, il l'a chanté dans beaucoup de chansons, dans Le bateau espagnol, qui date de 1946, mais aussi dans Mr. The Wind. Et les éléments les plus prégnants qui sont de la nature, qui sont dans son œuvre, c'est l'eau et le vent. Et puis, bien sûr, il y a les saisons. Et les saisons, la succession des saisons, ça inclut le temps. Et là, on est aussi dans une thématique très importante pour Léo Ferré. Alors, le temps des saisons, c'est associé aussi aux âges de la vie. Traditionnellement, dans la poésie classique, c'est le printemps qui est le plus chanté. Alors, le printemps, parce que c'est le renouveau, bien sûr. Alors, chez Léo, le printemps est chanté, mais il faut toujours nuancer chez Léo, donc l'hiver sera également très présent. Dans l'Opéra du Pauvre, c'est un des opéras écrits par Léo Ferré, il dit « Vint alors le printemps comme une draperie sur nos corps éblouis ». Alors, on va écouter une chanson qui s'intitule « Le printemps », c'est le printemps, qui date de cette période où il est dans le Lot, et donc elle date de 64.
Il y a la nature qui est toute en sueur, dans les hectares il y a du bonheur, c'est le printemps. Il y a des lilas qu'on n'aime plus le temps, de se faire tout mauve ou bien tout blanc, c'est le printemps. Il y a du blé qui se fait du mouron, les oiseaux, eux, ils disent pas non, c'est le printemps. Et à nos chagrins qu'on des couleurs, il y a même du printemps chez le malheur. Il y a la mer qui se prend pour Monet, ou pour Gauguin, ou pour Manet, c'est le printemps. Il y a des nuages qui n'ont plus de quoi, on dirait de la barbe, papa, c'est le printemps. Et il y a le vent du nord qui a pris l'accent, avec Mistral il passe son temps, c'est le printemps. Et il y a la pluie qui est passée chez Dior, pour se payer le modèle Soleil d'Or. Il y a la route qui se fait nationale, et des fourmis qui se font la malle, c'est le printemps. Il y a de la luzerne au fond des lits, et puis le faucheur qui lui sourit, c'est le printemps. Il y a des souris qui se font les dents, sur les matous par conséquent, c'est le printemps. Il y a des voix d'or dans un seul cri, c'est la Sixtine qui sort la nuit. Il y a la nature qui se tape un bol à la santé du rossignol, c'est le printemps. Et il y a le Beaujolais qui la ramène et Mimi qui se prend pour Carmen, c'est le printemps. Il y a l'île Saint-Louis qui rentre en scène et puis Paris qui s'y promène, c'est le printemps. Il y a l'été qui se pointe dans la rue et des ballots qui n'ont pas vu. C'était le printemps.
Oui, alors c'est une chanson qu'on peut qualifier de populaire et qui, comme toutes ces chansons-là, mélange des niveaux de langage différents, mais on voit le goût qu'il a pour les mots, hein, des nuages qui n'ont pas de quoi, on dirait de la barbe à papa, on sent le plaisir qu'il a à le dire. Et en même temps, dans cette chanson, il va parler à un moment donné des peintres. Et là, c'est une dimension très importante dans l'œuvre de Léo Ferré, c'est que Léo Ferré, c'est un passeur. Donc il veut partager les poètes qu'il aime, c'est comme ça qu'il en mettra 22 en musique. Les musiciens qu'il aime, il fait souvent référence à Beethoven, Bartók, Debussy. Mozart pour montrer aussi qu'il aime ses artistes, mais la difficulté qu'ils ont eue à vivre, qu'ils ont été confrontés à la misère. Je l'ai dit dans l'autre émission, il était toujours solidaire des artistes par rapport à leur misère et des petites gens par rapport à leur misère également. Et donc là, il parle des peintres, il parle de Monet, Manet, Gauguin, et il parle souvent dans ses chansons de Van Gogh, et on reverra le cas Van Gogh qui est important pour lui.
Oui, moi je constate que si effectivement la période s'est finie un peu tragiquement, on y reviendra, on sent quand même que ce fut une période heureuse au sein de cette nature lotoise. Si ça n'était pas, comme on le dit trop souvent à tort, la vie de château, car Perdigal était une grande bâtisse, certes, mais en assez mauvais état, voire très mauvais état, recouverte entièrement de lierre, c'est surtout la période vouée, je crois, aux animaux. C'est pas la vie de château, mais c'est l'Arche de Noé.
Oui, on va parler bien sûr des animaux. On a parlé même de l'arche de Léo et non pas Noé, parce qu'on l'a adapté. Alors, pour en revenir aux saisons, pour nuancer un peu, là, le printemps, bah, c'est gai le printemps bien sûr, mais l'hiver est quand même très chanté par Léo Ferré et singulièrement quand il est dans le Lot quand même. Alors, L'âge d'or, qui est une très belle chanson, que Cali d'ailleurs va interpréter à sa manière dans un de ses disques. Dans L'âge d'or, il dit « Nous aurons l'hiver avec une cigale dans ses cheveux blancs ». Dans la tristesse, c'est une chanson plus récente, entre guillemets. L'âge d'or, c'est de 66, donc il est toujours dans le Lot. Dans la tristesse, il dit « C'est le chant du silence emprunté à l'automne. C'est les fleurs chaussant leurs lunettes d'hiver ». Et là, on a toujours aussi la volonté de rentrer un terme comme ça du quotidien, les lunettes. Alors, cette présence des saisons, elle est importante, et cette nature très prégnante, comme l'a dit Bernard tout à l'heure. Il l'a d'abord chantée dans l'île de Guéclin, en face de Saint-Malo, donc. Et là, il a écrit un texte dans les années 60, qui est un des textes les plus longs de cette époque-là, puisqu'il y a 480 octosyllabes dans ce texte. Et il mettra ce texte en musique bien plus tard, 10 ans plus tard, et par petits morceaux. Ce qui donnera une chanson emblématique, c'est « La mémoire et la mer ». Dans cette chanson-là, c'est une chanson biographique mais codée, j'avais évoqué cet aspect dans la première émission. Et le texte est difficile à comprendre, mais la musicalité des mots et la magie de ce texte est telle que bien des gens qui me disent ne pas le comprendre le connaissent par cœur néanmoins. Alors c'est une chanson, La mémoire et la mer, qui est dans une gamme chromatique verte, bleu et gris, alors que dans le Lot, la gamme chromatique de Léo sera l'ocre, l'or et le jaune. Et là aussi, référence à Van Gogh, le jaune bien sûr, mais Van Gogh et la folie. Et la folie, ça c'est un thème qui intéresse beaucoup Léo, et il faudra également en reparler dans une émission. Alors bien sûr, dans le Lot, les arbres sont omniprésents, et il avait écrit des textes pendant cette période-là sur le langage, des textes remarquables, le style, le mot « voilà l'ennemi ». Et dans ces textes-là, il dit à un moment donné « Il n'y a pas d'arbre sans le mot « arbre ». Rien n'existe que je ne doive nommer. Chez moi, je donne des noms aux chênes et les glands ne sont plus perdus ». Alors dans ce lieu donc où il va donc créer beaucoup de choses, il va aussi installer une imprimerie. Il aime travailler avec ses mains. Il l'avait déjà fait à Paris, boulevard Pershing, mais là il fait livrer une machine très impressionnante, très professionnelle. Il aime fabriquer, travailler les mots directement, choisir des gravures également pour illustrer à la fois ses programmes, des partitions de musique également. Et puis il va retranscrire un texte qui concerne sa femme. Mais tu veux en parler
Moi, je peux peut-être parler de l'imprimerie, parce que je suis fier. La seule fois que je l'ai rencontré et nous avons parlé d'imprimerie. Sachant que j'étais à cette époque-là imprimeur, je suis repenti aujourd'hui. Et j'ai même fait la fierté d'avoir une dédicace qui parle de confraternité. C'est dire si j'en suis fier.
Normal. Donc, il a aussi utilisé cette imprimerie pour retranscrire le texte que sa femme avait enregistré sur un magnétophone, une sorte de journal qui s'appelle donc « Mémoire d'un magnétophone ». Alors, sa femme, il s'agit là de la deuxième femme de Léo Ferré, Madeleine. Et c'est un texte qui est très émouvant, mais qui en même temps montre bien son état dépressif et on voit que les drames qui vont arriver sont annoncés. Alors évidemment, il est facile de dire ça une fois que les choses sont passées, bien évidemment. On va écouter une chanson qui date de cette époque, 65, la chanson des amants, et qui est, bien sûr, il a chanté l'amour de toutes sortes de façons, mais dans cette chanson-là, c'est un peu un ton qui rend peut-être compte du moment où ils en étaient dans leur relation, qui est déjà, ils ont vécu ensemble 17 ans, hein, donc là, on est un petit peu déjà sur le reflux, disons. Donc, la chanson des amants de 65.
Ça fait pas de politique, ça fait que de la musique au fond des lits d'amour. Ça se prend par la taille, ça plie comme la paille quand les grains sont trop lourds. Ça choisit des caresses qui blessent, des caresses qui tuent. Ça se tue tous les quarts d'heure, c'est fou ce que les gens meurent quand ils se disent tu. Ça s'envoie des paroles aussitôt qui s'envolent comme les petits oiseaux. Quelquefois ça s'engueule, ça se fout sur la gueule et ça s'aime de nouveau. Ça fait pas des affaires, ça ne fait que des manières au fond des lits d'amour. Ça se prend, ça se quitte, ça se double et l'on est quitte après la nuit, le jour. Ça choisit des toilettes où l'on guette un coin de paradis. Quand ça part en voyage, ça traîne à chaque page du feuilleton de la vie. Ça s'envoie des outrages, ça pleure et ça rage et ça se quitte, bons amis. Quelquefois ça se regrette, retourne voir ta voilette, que je te parle du pays. Ça part dans les étoiles pour un rien, ça cavale dans des foutus endroits. Quand ça retombe, ça rigole, quand aux ailes ça se recolle et ça serre plusieurs fois. Ça choisit des ivresses qui laissent un goût de revenez-y. Ça y revient et s'attarde au bout d'une cocarde accrochée à la nuit. Ça s'envoie des promesses qui cessent dès que tourne le vent. Tout juste si ça dure, 8 à 16 mesures, la chanson des amants.
Alors c'est une chanson un peu gouailleuse, mais dans le même temps, il a écrit des textes parallèles. C'est tout à fait étonnant chez lui quand même, comme Le Lit par exemple, qui sont des chansons au contraire très romantiques et très classiques, ou Chansons pour elle, des choses comme ça. Et d'ailleurs, il y a une chanson qui s'appelle Les Romantiques, avec un peu d'ironie dans cette chanson, qui est assez savoureuse également. Donc une grande variété hein, dans ces années-là de création. Mais quand il écrit sur le Lot même, il a des textes très longs, un peu comme pour La mémoire et la mer. Il a des textes qui sont très forts, comme Le chemin d'enfer. Alors, je vous lis les premiers vers de Chemin d'enfer. Le chemin d'enfer, on l'entend dans certains textes comme Et basta, mais il ne l'a apparemment jamais mis en musique. Je ne sais pas l'an que je viens de vivre, dans la feuille morte où vient de passer toute la vénure de l'âme du givre. Un autre texte qui s'appelle initialement « Perdre égal » et qui va ensuite prendre le nom de « Le loup », il dit « La nature est sévère à qui la prend d'un coup ». Alors on va écouter cette chanson et Bernard a eu beau chercher, apparemment Léo ne l'a jamais enregistré. Par contre, il a fait une musique néanmoins, et là on va l'écouter par
Jean Prouverdier, le barde occitan, qui est un immense amoureux aussi de Léo et de son œuvre, et qui avait déjà enregistré en occitan Ni Dieu ni Maître dès les années 60. Et en l'occurrence, là, il a consacré tout un album à Léo Ferré, qui s'appelle Léo Domani, et dans lequel il y a cet inédit, qui n'avait jamais été, qui est parole et musique de Léo Ferré, mais qu'il n'avait jamais enregistré.
Le loup n'a plus de dents, il mange des idées. À la radio, il nous commente les nouvelles. As-tu vu ce matin mourir une chandelle? Cette étoile de cire où meurent des années. Il en va de l'espoir comme d'un tapis vert, usé l'espoir déçu se trame une autre chaîne sur les brisés de ceux qui portent de la laine. En guise de mouton, le loup va prendre l'air. Je sais de vieux sapins qui n'ont pas leur raison. Ils fleurissent des jours, des mois, des parenthèses. Je sais des paradis perchés sur une chaise, à scruter sous la pluie un désir de pardon. Les arbres sont polis quand j'y passe mon cœur. Je me les fais copains d'une ancienne habitude, et mes racines se mêlant à leur étude. Quand je deviens forêt, ils deviennent malheurs. Les moutons dans les prés rêvent d'être mangés. Les loups dans la nuit bleue boivent du sang de hune. La nuit, quand ils s'en vont hurler dessous la brune, on dirait d'un concert aux archers délivrés. Paradis des fureurs jaunes, je te salue. Je t'apporte un bouquet de fidèles écritures, un bouquet de paroles où la voix démesure les mots de tous les jours qui n'en finissent plus. Un hibou dans les bois joue de la flûte en sol, des cris comme une écharpe aux gorges des fauvettes. Lui joue la tierce des terreurs et des boulettes. Ô lugubre chanson des hiboux parasols. J'entends le train passer, son message de fer. Le monde survécu dans un paquet de cendres. Un Boeing éployé qui ne veut plus descendre. Au renaître de vous et remanger la mer. Repasser sous le plat du fer qui plane et plie. Être la soie perdue au bord de la blessure. Être le feu qui rêve au froid de la brûlure. Accaparé du rien dans un verre d'oubli. Ce matin mourir une chandelle, cette étoile de cire où meurent des années.
Alors Léo Ferré, il écrivait aussi un journal. Hein. Je l'avais dit dans la première émission qu'il écrivait dans tous les registres littéraires. Il avait donc un journal. Et ce journal a été intégralement publié en 2013 dans Les Chants de la Fureur. Mais on en connaissait des extraits dès 67. Et il y avait par exemple un extrait qui était paru donc dans la revue La Rue. Alors, la revue La Rue, c'était une revue anarchiste. Léo chantait chaque année pour la Fédération anarchiste de Paris pour soutenir la revue. Et il donnait à chaque fois un texte de lui. Et on avait comme ça des textes en avant-première, disons. Et il y a ce texte qui s'intitule « Je donnerai 10 jours de ma vie ». Et ça raconte les 10 premiers jours de janvier 67, donc, à Perdrigal. Et là, il raconte le quotidien de la vie qu'il mène. Et on voit que c'est un quotidien quand même difficile. Alors évidemment, c'est l'hiver. Il y a une rudesse. La saison, quand même, dans le Lot peut être rude. Et vu le grand nombre d'animaux qu'ils avaient, il y avait un travail considérable à fournir. Et apparemment, Léo y contribue également, ainsi que Madeleine, bien évidemment. Il y a une phrase dans un autre texte de la même époque qui dit « Je vous apporterai des animaux sauvés, l'innocence leur dégoulinant des babines. » Alors, outre les chiens, les chats et les chimpanzés, ils avaient recueilli des animaux pour les soustraire au couteau. Donc, ils avaient recueilli des brebis, ils avaient recueilli un cochon, etc. Donc, ils étaient arrivés à un moment à avoir plus de 50 animaux à Perdrigal. Dans ce bestiaire poétique, bien sûr, il y a aussi des animaux, il y en a un peu moins quand même. Et ça, je l'ai détaillé dans le petit livre que j'ai écrit, dont on a parlé l'autre fois, « Vienne le temps ». Et l'animal le plus présent dans son œuvre, c'est l'oiseau. Alors, l'oiseau, évidemment, c'est une symbolique, ça représente le poète par la liberté, le vol, par le chant, la voix, le chant, et aussi par sa fragilité. Et du reste, dans « À toi », que nous avons écouté la dernière fois, il dit « les oiseaux que le chasseur flamberge ». Bon, flamberge, c'est un verbe inventé, hein, c'est le nom d'une épée, mais il avait un art pour détourner les mots. Il dit dans un autre texte « je suis né une métaphore au bec ». Alors, il y a toutes sortes d'oiseaux, évidemment, dans son œuvre. Alors, il y a les corbeaux. Alors, les corbeaux, en référence à Villon, Verlaine et Rimbaud, autant de poètes qu'il a mis en musique. Il y a l'albatros de Baudelaire, là aussi Baudelaire mis en musique, l'albatros. Lui-même, Léo, a écrit « Les albatros ». Il a écrit beaucoup sur les hiboux. Il avait recueilli un hibou qu'il avait appelé « Sosthène ». Et il a écrit souvent sur ces animaux-là, les animaux du malheur, puisque les hiboux, c'est des animaux qui ont longtemps été persécutés. On les clouait sur les portes des granges. Et puis, c'était des oiseaux de nuit. Et parfois, si on les persécutait, c'est parce qu'on pensait qu'ils étaient liés au diable. Et dans les tableaux, d'ailleurs, de Jérôme Bosch, les hiboux sont présents. Hein, ils surveillent, etc. Il dit des hiboux, lui, ils volent adorablement comme les femmes, les oiseaux du malheur. Dans l'été 68, des hiboux ensoleillés comme les enfants du mois de mai qui reviendront. Il porte d'ailleurs autour du cou, Léo, un petit hibou, un bijou, quoi, un petit hibou, qu'on peut voir sur beaucoup de photos. Hein, il l'avait très très souvent. Et quand il s'est installé en Italie, donc quelques années après avoir quitté le Lot, eh bien, il va créer une maison d'édition qui s'appelle Gufo del Tramonto, donc le hibou du soir. Dans Les Poètes, il écrit qu'il traverse la brume, les poètes, qu'il traverse la brume avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons. Dans Les Artistes, ils font plier le temps sous l'aile d'un oiseau. Dans Les Mots, des mots qui montent de la terre comme des oiseaux tristes. Dans « Y en a marre », »,« je croasse », dit-il. Dans « Et basta », c'est Léo qui parle, « je suis un vieux corbeau qui court après une corbotte, je croasse ». Dans un autre texte, « les préfectures sont des monuments en airain. Un coup d'aile d'oiseau ne les entame même pas, c'est vous dire ». Dans « Le chien », la chanson qui s'intitule « Le chien », ça commence par « à mes oiseaux piaillant le bout chiné sous les becs de la nuit ». Alors, je me permets de rappeler que le texte que Léo Ferré m'a écrit pour mon premier livre disait « Tu écris comme une alouette pleine de têtes et de sourires ». Le problème, et qu'il existe un piège redoutable qu'on appelle le miroir aux alouettes. Et il n'est pas exclu que Léo, en m'écrivant ce joli texte, ait pensé aussi à ça. Parce qu'il fonctionnait comme ça, hein, vraiment, avec l'esprit d'escalier. Le deuxième animal présent dans son œuvre, c'est le cheval. Alors le cheval, par contre, il est associé à la folie, au vieillissement et à la mort. Dans À mon enterrement, que nous avons écouté dans l'émission précédente, il dit « J'aurai des chevaux bleus ». Dans Le chemin d'enfer, donc écrit dans le Lot, il parle de Nietzsche, au Nietzsche agrippé aux naseaux de Turin, ce cheval triste et fou qu'on éreinte. Alors là, il fait allusion à un événement dans la vie de Nietzsche, et si on ne le connaît pas, bon, on a du mal à comprendre, mais ça c'est très très fréquent hein, dans l'œuvre de Léo Ferré. Nietzsche est intervenu en voyant à Turin un cocher qui battait un cheval quasiment à mort. Et Nietzsche est accroché pour essayer de protéger le cheval, et en fait Nietzsche va rentrer dans la folie à partir de cet incident-là. Et Léo, qui est très ému, évidemment, et par les chevaux et par la folie, va très souvent relater cet événement. Dans Avec le temps, je l'avais signalé l'autre fois, il dit « Et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu ». Alors en français, hein, il y a l'expression « blanchir sous le harnais », et cette expression, elle concerne les chevaux. Maintenant, on fréquente moins les chevaux qu'à une époque, mais ce côté-là est très très présent, donc le vieillissement, la mort, les abattoirs également. Il a consacré d'ailleurs une chanson aux chevaux qui s'appelle « Les chéris ». Le soir à Vaugirard, c'est l'abattoir de Paris. Le troisième animal très présent quand même, c'est les chiens. Alors les chiens sont présentés évidemment comme les amis de l'homme, et particulièrement des poètes. Les chiens leur lèchent les mains, leurs mains de plume et d'amitié, dit-il dans Les Poètes. Dans Le Testament, les âmes de nos chiens en bouquet réunis. Donc il a eu beaucoup de chiens dans sa vie et il en a beaucoup parlé. Mais il y a quand même un chien négatif dans ses chansons. C'est une chanson qui l'adresse au général de Gaulle, qui s'intitule « Mon général ». C'est une chanson très insolite, très hostile, très insolente surtout. Et il dit dans cette chanson « J'aimais les chiens, j'en ai vu un qui m'a souri. J'y suis allé, puis j'ai compris. Il l'avait dressé comme un homme. » C'est un des rares moments où il s'en prend aux chiens, voilà, les chiens détournés par l'homme, ça c'est terrible. Hein. Évidemment, on ne peut pas ne pas parler d'un autre animal, c'est donc les chimpanzés, puisque c'est pour cela en grande partie qu'il s'est installé dans le Lot, donc avec Pépé, avec Zaza, Bambino, il y en avait plusieurs. Et il y a plusieurs chansons où il fait allusion aux chimpanzés. Par exemple, dans La Mélancolie, il dit, qui date de cette époque, hein, c'est un chimpanzé aux os d'envers qui meurt à moitié, qui meurt à l'envers, qui donnerait ses pieds pour un revolver. Et là, le coup du revolver, c'est un clin d'œil à Breton. Il y a beaucoup, beaucoup de clins d'œil Breton qui parlait d'un revolver aux cheveux blancs. Donc il y a beaucoup de clins d'œil comme ça et c'est pas toujours évident de tout décoder. Alors malheureusement, il va y avoir la mort des chimpanzés qui vont se dérouler dans le Lot, et c'est ce qui va déclencher la rupture avec sa deuxième femme et qui va entraîner aussi le fait que Léo va quitter le Lot. Il y reviendra après, mais dans d'autres circonstances. C'est donc une histoire qui se termine dramatiquement. On va écouter une très belle chanson, très émouvante, qui s'intitule « Pépé ». C'était donc le nom d'une des chimpanzés élevée comme un enfant par Léo et par Madeleine.
T'avais les mains comme des raquettes, Pépé. Et quand je te faisais les ongles, je voyais des fleurs dans ta barbiche. T'avais les oreilles de Gainsbourg. Mais toi, t'avais pas besoin de scotch pour les replier la nuit. Tandis que lui, ben oui. Pépé, pipi. Pipi. T'avais les yeux comme des lucarnes, pipi. Comme on en voit dans le port d'Anvers, quand les marins ont l'âme verte et qu'il leur faut des yeux de rechange pour regarder la nuit des autres comme on regardait un chimpanzé. J'ai les ferrés, pépé. 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 T'avais le cœur comme un tambour, pépé. De ceux qu'on voile le vendredi saint vers les 3 heures après-midi. Regardez Jésus, machin, souffler sur ses 33 bougies, tandis que toi, t'en avais 8. Le 7 avril de 68, pépé. Pépé. Je voudrais avoir les mains de la mort, pépé. Et puis les yeux, et puis le cœur, et m'en venir coucher chez toi. Ça changerait rien à mon décor. On couche toujours avec des morts. On couche toujours avec des morts. On couche toujours avec des morts. On couche toujours avec des morts.
Alors c'est une chanson évidemment très émouvante, très pathétique. Il l'a créée Bobineau en 69. Et pour un peu alléger l'atmosphère, je vais raconter une anecdote qui s'est passée lors du festival de Gourdon en 2013. Donc, l'un des chanteurs, Fromm, qui est accompagné au piano par Ziel, a interprété cette chanson Pépé. Et il a dit, je ne sais pas s'il l'a dit avant ou il l'a dit après, que la première fois qu'il avait entendu cette chanson, il était assez jeune, j'imagine, il avait pensé qu'il s'agissait d'un grand-père. Pépé, le grand-père, quoi. Et ça marche très bien, tout le début, les grandes mains, la barbe, les oreilles décollées, ça fonctionne, hein. Et alors les gens, évidemment, le public a éclaté de rire à Gourdon. Et sauf que moi, à Bobineau, quand je l'ai entendu, ben, j'y pensais pareil. J'ai pensé qu'effectivement, c'était un pépé. Parce que si on n'est pas trop people, si on ne connaît pas la vie des vedettes, et c'était mon cas, hein, je m'intéressais à l'œuvre, point final, eh ben, moi, je ne savais pas qu'il avait un chimpanzé qui s'appelait Pépé. Donc, j'étais ému. Puis après, j'ai quand même trouvé qu'il y avait des choses un peu bizarres. Hein, donc, voilà. Et après, j'ai su ce qu'il en était. Je crois que Bernard veut ajouter un petit quelque chose par rapport à un autre animal, donc alors, le hibou, retour
dans
arrière.
Dans le bestiaire, tu as évoqué l'omniprésence du hibou. Je me rappelais qu'il figure toujours aujourd'hui comme le logo du Chianti, qui est produit sur la propriété de Toscane, où Léo et sa dernière épouse Marie, qui produit toujours aujourd'hui le Chianti, ainsi que de l'huile d'olive d'ailleurs.
Très bon d'ailleurs, les deux sont très bons.
Donc le hibou est toujours présent.
Absolument. Donc, pour continuer notre fil sur la nature, Léo, il va aussi associer la nature et la femme. Alors, on avait évoqué déjà la femme, bien sûr, et l'érotisme dans la précédente émission. Donc, la nature, la femme et l'érotisme sont souvent liés. Alors, par exemple, dans « La fleur de l'âge », c'est le titre d'une chanson, il dit « Ta violette, c'est l'amour, moi qui te viole à la folie dans ta bruyère de satin ». Alors, je fais remarquer là qu'il y a la couleur aussi qui est importante. Il y a violette, la bruyère, hein, donc la couleur mauve. La couleur mauve et violet, c'est toujours associé à l'amour chez Léo Ferré. Là aussi, j'ai fait une étude sur les couleurs. Et il a détourné la liturgie catholique pour faire de l'amour une religion. Il fait des prières inversées. C'est une citation également. Et c'est une attitude très proche de Baudelaire. Et qui a fait la même chose et qui le revendique, Baudelaire étant le poète que Léo a le plus mis en musique. Il a mis, je crois, plus de 58 poèmes de Baudelaire en musique. Dans la chanson « C'est le printemps » que nous avons entendu tout à l'heure, il dit « Il y a de la luzerne au fond des lits, et puis le faucheur qui lui sourit ». Je vous laisse réfléchir à qui peut être ce faucheur. Dans « Joli môme », qui ou quoi plutôt, dans « Joli môme », il dit « Ta prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis, joli môme ». T'as qu'une fleur de printemps qui guimauve et qui meurt. Là, c'est les allusions au fait que certaines chansons sont passées sur les ondes parce qu'elles étaient suffisamment codées pour que ça passe, quoi. Dans Je t'aime, il dit « Je t'aime pour ta vigne ou vendange des fées et pour cette clairière qui éclaire ma route, pour tes seins durs comme des galets. » Donc, vous voyez, autant de comparaisons avec la nature. Dans la chanson « L'amour », quand il y a la mer et puis les chevaux, qui font des tours comme au ciné, mais que dans tes bras, c'est bien plus beau quand il y a la mer et puis les chevaux. Je t'aime, il y a une autre chanson qui porte le même titre, où il y a également des références aux chevaux. Ces deux chansons, il va les rassembler à un moment donné et en faire une seule chanson. Enfin, disons, il les assemble. Enfin, pas une seule chanson, mais enfin, il les assemble. Il y a un texte également qui s'appelle « Alma Matrix » et qui commence par « La femme » vient de la mer. C'est salé, c'est poivré, c'est doux, c'est huileux, c'est huilé, c'est noisette, c'est vernissé jusqu'au profond des portes entrebâillées. C'est un texte érotique, clairement érotique, et là, c'est avec des dessins d'ailleurs de Serge Arnoux. On va parler donc d'une chanson d'amour un peu différente, qui est une lettre. Alors, pour cela, il y a plusieurs raisons. Alors la première raison, c'est que l'œuvre épistolaire de Léo Ferré, elle est très importante. Là aussi, hein, j'avais précisé dans la première émission que son œuvre est extrêmement donc variée et que la prose est très très présente. Et de même que dans Benoît Misère, son roman, il fait preuve aussi dans les lettres, vraiment d'une qualité de prosateur extraordinaire. Alors il y a des lettres qui ont été destinées à des gens et qui leur sont parvenues. Et puis il y a des lettres qui s'appellent les lettres non postées. Alors ces lettres non postées, elles ont été enregistrées par Michel Bouquet, qui est un comédien qui parle remarquablement bien, avec beaucoup de justesse, de Léo Ferré. Et un certain nombre de ces lettres sont adressées à des objets ou à des entités, la lettre au miroir, la lettre à un habit, la lettre à l'Angleterre, etc. Donc ces lettres sont une œuvre importante, une partie de son œuvre importante, souvent peu connue, voire pas connue, hein. Alors, on va donc écouter cette chanson. Alors, la deuxième raison, évidemment, pour entendre cette chanson, ou même il y en a trois des raisons, c'est que cette lettre s'adresse à sa troisième femme. C'est une lettre qui date de 70, mise en musique en 70. Cette troisième femme qui va devenir la mère de ses trois enfants. Et cette femme, il l'a connue dans le Lot. Et cette femme lui apportera un amour apaisé dans les années... à partir de ces années-là, jusqu'à sa mort, bien évidemment. Alors, dans cette chanson, c'est une chanson intimiste, avec des mots simples, voire enfantins, qui est à la fois parlée et chantée. Et là, ça illustre bien aussi l'originalité de l'artiste, de l'interprète, car Léo a été le premier à introduire de la parole dans les chansons, La première, c'était dans Terroc Coco, qui est une chanson très ancienne de Léo Ferré. Et puis après, il y a eu Le Chien, évidemment. Hein. Donc là, c'était aussi bien avant que le slam ou que le rap existe. Alors on écoute donc La Lettre.
Ton ombre est là, sur ma table, et je ne saurais te dire comment le soleil factice des lampes s'en arrange. Je sais que tu es là, que tu ne m'as jamais quitté, jamais. Je t'ai dans moi, au profond, dans le sang, et tu cours dans mes veines. Passe dans mon cœur et tu te purifies dans mes poumons. Je t'aime, je te bois, je te vis, je t'envie et c'est bien. Porte ce soir, mon enfant de longtemps, celui que je me suis fait tout seul, qui me ressemble, qui te ressemble, qui sort de ton ventre, qui est dans ma tête. Tu es la sœur, la fille, la compagne et la poule de ce Dieu tout brûlant qui éclaire nos nuits depuis que nous faisons nos nuits. Je t'aime, je t'aime. Il me semble qu'on m'a tiré de toi et qu'on t'a sorti de moi. Quand tu parles, je m'en sente. Quand je sente, je te parle. Nous venons d'ailleurs tous les deux, personne ne le sait. Quand je mourrai, tu ne pourras plus vivre que dans l'alarme. Tu n'auras plus un moment à toi. Tu seras mienne par-delà le chemin qui nous séparera. Et je t'appellerai et tu viendras. Si tu mourrais, tu m'appellerais. Je suis la vie pour toi et la peine et la joie. Et la mort. Je meurs dans toi. Et nos morts rassemblés feront une nouvelle vie, unique, comme si deux étoiles se rencontraient. Comme si elle devait le faire de toute éternité. Comme si elle se collait pour jouir à jamais. Ce que tu fais, c'est bien, puisque tu m'aimes. Ce que je fais, c'est bien, puisque je t'aime.
à ce jour, à cette heure, à toujours. Mon amour,
ah, c'est trop beau.
Magnifique.
C'est comme ce que disait de Mozart Guitry. Après Léo, c'est encore du Léo. Le silence qui suit est encore du Léo.
Absolument.
Donc, il va peut-être falloir quand même se quitter, mais sur cette magnifique note. Je ne manquerai pas de rappeler toutefois que nous sommes à quelques jours du 9e festival Léo Ferré de Gourdon, au nom des Amis de la Butte de Gourdon. Je vous convie, bon, nous aurons notre, notre président viendra dans quelques jours vanter le programme de ce millésime. Et il y aura donc les mots éternels à travers les voix ferrées de jeunes interprètes. Alors, à bientôt.
Petite précision, moi je ferai une conférence le 8 juillet à 17h à Souillac, salle du Bellay, bien sûr sur Léo Ferré, qui s'intitule « La musique, les mots et le silence ». Et tout le monde est invité à venir.
Bien sûr.
C'est extra. C'est extra. C'est extra. C'est extra. C'est extra. C'est extra.